dernier amour, 3. Pendant 15 jours, nous ne fûmes pas occupés d'autre chose. Je ne cessais d'explorer le lit du torrent, voulant tout prévoir. Et plusieurs fois, je retournais à la prairie de la quille pour la sonder dans tous les sens et m'assurer de la profondeur du sol. L'eau devait, à coup sûr, entraîner des débris de roches quand elle aurait fini de peler la montagne. Il fallait donc penser à l'avenir et aviser à ce que les pierres ne vinssent pas recouvrir nos terres à un moment donné. Après beaucoup de réflexions et d'observations, je trouvai un moyen simple et peu coûteux. Mais ce n'est pas l'histoire du torrent que vous m'avez demandé, et je vous fais grâce des détails. Il m'a fallu vous dire tout ce qui précède pour vous faire savoir comment je me trouvais lié à l'existence des Morgerons, et comment aussi je fus mis promptement à même de connaître les secrets ressorts de leur destinée et le caractère de la personne la moins expansive du monde, Félicie Morgeron. Quant à celle-ci, je la connus mieux encore lorsque j'annonçai que, mes calculs étant établis et ma certitude acquise, il fallait s'occuper d'acheter le terrain de la quille. Jean attendait cette décision avec une impatience fiévreuse. Il voulait courir chez Amy à l'instant même. Félicie l'en empêcha. « Vous vous ferez voler !» lui dit-elle. « Laissez-moi régler l'affaire !» Et elle partit avec Tonino pour le village où demeurait Zemi. Ils revinrent le soir même. Tout était terminé. Nous avions la prairie pour un prix minime. Jean était trop passionné pour s'arrêter aux petits scrupules. Il louait et remerciait sa sœur avec transport. Je n'avais pas la conscience aussi tranquille. Zemi était un paysan très pauvre. J'aurais souhaité qu'on l'associât d'une façon quelconque à nos futurs bénéfices. Mais la chose ne me regardait pas, et je n'osais rien dire. « Vous rêvassez ?» me dit Tonino le lendemain, avec sa familiarité enfantine et caressante. « À quoi pouvez-vous bien penser ?»« Aux pauvres amis, lui dis-je, je regrette de n'avoir pas de quoi le faire profiter. » reprit Tonino. « Parlons bas, car la cousine est toujours sur les talons, et elle a l'oreille fine. Elle serait en colère si je vous disais ce qu'elle a fait. »« Alors, ne me le dites pas. »« Je veux le dire, malgré sa défense. Je veux que vous sachiez comme elle est généreuse et juste. Il faut, voyez-vous, que vous l'aimiez comme je l'aime. Sachez donc qu'elle a payé la prairie très cher et sans marchander. » Zemi en était tout surpris et content comme un fou. Mais la patronne ne veut pas que son frère le sache. C'est elle qui paie la différence. Voilà comme elle est. Elle gronde toujours le patron sur sa légèreté. Elle lui dit qu'il se fait toujours tromper. Et elle, quand elle s'en mêle, elle est si grande qu'elle paie deux fois plus que lui. Seulement, elle dit « On ne me trompe pas, j'ai voulu cela ». « Gardez-moi le secret, monsieur Sylvestre. Elle me battrait si elle savait que je l'ai trahi. » Je demandai à Tonino s'il craignait réellement sa cousine. « Pas du tout pour moi, » répondit-il naïvement. « Quand elle frappe, elle a la main douce. Mais quand elle a frappé, elle se boude et elle pleure en cachette. C'est pourquoi la peur de lui faire de la peine et de la voir malade me rend sage comme une demoiselle. » et coulant comme une anguille. Nous étions à la mi-juillet. Nous pouvions entamer les travaux, et nous commençâmes à embaucher des ouvriers. Jean partit pour aller en recruter d'autres, et pour faire amener les arbres abattus au Saint-Plan. Il fallait se hâter pour n'être pas surpris par l'hiver au milieu du travail d'endiguement. Je n'avais plus le loisir de la réflexion. J'étais fixé pour un temps illimité à la diablerette. C'était le nom significatif de la propriété de mes hôtes, cette oasis jetée au milieu des horreurs de la montagne. Pendant l'absence de Jean, Je surveillais l'ouvrage et j'y travaillais moi-même, tout en dirigeant mes ouvriers. Le travail du corps est bon et rend juste et patient avec ce que l'on commande. On se rend compte par soi-même de ce qu'on peut demander à leur énergie sans en abuser. L'endroit où nous opérions était si enfoncé dans la gorge étroite et surplombante qu'il y faisait nuit de bonne heure. Je dînais à 7 heures avec Félicie et Tonino, et pour occuper le reste de la soirée, je m'amusais à donner des notions de mathématiques et de géologie pratique au jeune baron. C'était une étrange organisation, merveilleusement intelligente pour tout ce qui parlait au sens, fermée aux choses idéales. La volonté y était pourtant. L'attente et la docilité étaient parfaites, et si je ne lui apprenais rien d'exact, du moins j'ouvrais tant soit peu son esprit au raisonnement. Je n'ai jamais rencontré de naturel plus sympathique et plus affectueux. Je le pris en amitié réelle, et je me laissais aller à le gâter. Félicie me le reprochait, mais par le fait, tout en le rudoyant, elle le gâtait encore plus. Et malgré sa prétention de n'aimer que son frère, je vis bien alors qu'elle aimait Tonino pour le moins autant. Cette affection me parut légitime et sainte. Et voyant combien Tonino était enfant et porté aux effusions candides, j'oubliais complètement, je me reprochais presque les soupçons que j'avais conçus sur son intimité avec Félicie. Il était presque aussi prévenant et aussi caressant avec moi qu'avec elle. Et quand je m'étais donné de la peine à sa leçon, il me baisait les mains malgré moi. Je perdais mon temps à lui dire que cela ne convenait pas. Il répondait que cela se faisait en Italie. Et en me conduisant à ma chambre, il baisait mon chapeau ou mon livre avant de me les présenter. Félicie, toujours pleine de soins et d'attention, se montrait d'ordinaire sérieuse et froide avec moi comme avec lui. J'avais beau savoir le secret de sa vie, la cause de ce pli au front, de ce regard sec, de cet amer sourire, elle m'étonnait toujours comme un problème dont je ne saisissais pas la solution. Tout n'était-il pas anormal dans sa destinée? Cette fille de race artiste et de sang noble, mêlée au sang rustique, née et élevée dans un milieu contraire à ses instincts, brisée encore enfant par la honte, la misère et la douleur, puis retransplantée dans la vie des champs et redevenue une paysanne active et parcimonieuse avec des sentiments de générosité chevaleresque et une organisation délicate, tout cela ne se tenait pas et formait un ensemble indéchiffrable pour moi, pour elle-même probablement. Ceux qui l'entouraient, pauvres serviteurs, ne s'inquiétaient pas beaucoup de l'énigme. L'habitude la leur faisait accepter comme une force dont ils ne cherchaient pas la cause et le but. Les gens simples ne remontent guère à la source des faits. Jean, malgré son esprit actif et ingénieux, était un vrai paysan. Tonino eût pu mieux analyser, mais il se contentait d'aimer. Quant à moi, qui n'éprouvait aucun entraînement particulier vers cette nature déclassée et inclassable, je l'examinais lorsque je n'avais rien de mieux à faire, et je sentais en elle un imprévu tour à tour rassurant ou menaçant. Quand elle avait un éclair de gaieté, une heure d'abandon, on pouvait être sûr qu'elle serait d'autant plus sombre ou réservée l'instant d'après. Et, quand elle s'était montrée irritée ou exigeante, on pouvait compter qu'elle vous comblerait de soins tout aussitôt, pour réparer son injustice, sans paraître la reconnaître ou s'en repentir. Il y avait en elle des cordes brisées ou détendues. L'instrument, exquis par lui-même, ne pouvait être d'accord. Le son déchirant m'en était pénible. Parfois, cependant, une belle note pure produisait une impression délicieuse. J'éprouvais le besoin de la plaindre. Mais elle ne permettait pas l'amitié et ne semblait pas la connaître. Son attachement pour les siens avait le caractère d'un devoir accompli avec passion, jamais avec tendresse. Elle était bonne pourtant, bien bonne, équitable et maternelle, comme la force, prévoyante de tous les besoins des autres, les devinant et se tourmentant jusqu'à ce qu'elle eût changé leur peine en bien-être, se fâchant quand on lui cachait une souffrance, se fâchant encore quand on la remerciait de vous l'avoir épargnée. Elle avait beaucoup de compréhension et d'esprit, des notions très variées et très vagues, aucune instruction solide, aucune philosophie, aucune croyance. Elle aimait le bien, le juste et le beau, sans les bien apprécier et sans les connaître, sinon par ouï-dire ou par surprise révélatrice de l'instinct. Elle paraissait être, comme Tonino, privée de la faculté de raisonner. Les remontrances qu'elle lui adressait étaient plaisantes en ce qu'elle ne savait lui dire le pourquoi de rien, et si par hasard il le lui demandait, elle lui répondait « Il n'y a que les sots et les paresseux qui ont le « pourquoi » à la bouche. » Comme Tonino l'avait fort peu dans l'esprit, il se contentait de cette réponse. Il y avait pourtant deux choses qu'elle savait bien. C'était l'italien et la musique. Elle parlait facilement et incorrectement le français et l'allemand. Mais la langue de son grand-père était restée pure et pleine d'élégance dans sa mémoire. C'est dans cette langue que j'aimais à l'entendre. Quant à la musique, elle l'enseignait admirablement à Tonino et à moi. Car, malgré mes 50 ans, j'aimais encore à apprendre. Et toute ma vie j'avais regretté de n'être qu'un amateur et de ne pas avoir le temps ou l'occasion de connaître la mathématique sérieuse de cet art divin. Tonino jouait agréablement du violon et il n'avait pas eu d'autre professeur que sa cousine. J'étais curieux de savoir si elle le lui avait enseigné par pure théorie ou si elle connaissait l'instrument. Mais je savais bien que si je le lui demandais, elle me répondrait brusquement qu'elle ne savait rien du tout. Un jour que Tonino essayait un motif de Weber et le dénaturait avec la facilité italienne, elle s'impatienta, prit le violon et, avec une grâce indicible, elle joua comme un maître. Je ne pus me défendre de l'applaudir. Elle jeta l'instrument avec humeur en haussant les épaules. Mais Tonino avait été chercher un autre violon qu'il lui présenta d'un air suppliant. « Pourquoi te permets-tu de toucher à cela ?» lui dit-elle. C'était une relique, en effet. C'était le violon de Cremone du grand-père avec l'archet armorié. Elle ne put résister au désir de le mettre d'accord et de jouer. Pendant une heure, elle nous ravit. Elle ne savait faire sans doute aucune difficulté, mais elle avait le chant large et pur des vrais musiciens. L'ampleur de son geste et la simplicité majestueuse de son attitude répondaient à cette saine intuition musicale. Elle paraissait grande quand elle tenait ce violon. Son profil sérieux s'illuminait d'une flamme intérieure et d'une auréole mystérieuse. Au plus beau moment de son inspiration, et comme elle semblait en communication avec l'âme des maîtres, elle s'interrompit, et, remettant le violon à Tonino, « Reporte cela, » lui dit-elle, « il faut que j'aille à la laiterie, je n'ai pas le temps de m'amuser. » Et elle courut à ses vaches, reprenant tout à coup l'air affairé et la démarche empressée de la ménagère prosaïque. Ces contrastes entretenaient mes perplexités. Je me demandais si cette existence, encore si remplie d'ardeur et de vitalité, était réellement finie. Si elle m'avait dit vrai, en m'assurant n'avoir aimé personne depuis la catastrophe de sa jeunesse, et si, dans tous les cas, l'occasion d'aimer noblement et légitimement venant à naître, elle n'aurait plus assez de foi et d'enthousiasme pour la saisir. Vous me demanderez pourquoi je me faisais ces questions. En toute sincérité, je puis vous affirmer que j'y prenais un intérêt purement philosophique. Je ne pouvais d'ailleurs m'en préoccuper bien assidûment. J'avais trop de travail sur les bras, trop de calculs matériels dans l'esprit pour philosopher ou pour rêver longtemps. J'eus plus de loisirs quand la mauvaise saison interrompit nos travaux. je dus me borner à faire de continuelles observations sur la force des crues, sur les caprices du courant et sur les dévastations que la brame, c'était le nom de notre torrent, produisait encore en pure perte pour nous dans le terrain de la quille. Je n'en étais pas aussi dépité que Jean. Je songeais à la possibilité de faire sauter d'autres rochers, afin de mettre à découvert l'abîme de boue fertilisable que le torrent nous tenait en réserve dans ses gouffres. Comme en somme tout allait bien, et que vers le mois de janvier notre digue légèrement entamée promettait de tenir bon, notre vie était tranquille et même gaie. Jean, qui ne pouvait tenir en place, allait et venait pour ses affaires, de Sion à Martigny et de Briègue à la Diablerette. Nous le voyions souvent quand même, et il passait des semaines avec nous. Félicie m'en remerciait, car les hivers précédents, on l'avait vu à peine. Nos soirées étaient longues et enjouées. Jamais Jean n'avait été de si bonne humeur. Il était naturellement et franchement gai, lui, quand il n'avait pas trop de soucis dans la cervelle. Cette fois, il voyait tout en beau, et son plaisir était de taquiner Tonino et de faire assaut de Lazzi avec lui, pourvu que ses plaisanteries eussent toujours trait à l'objet de ses espérances. « Tu sais, lui disait-il, que quand notre île sera en plein rapport, je t'achèterai ton titre de baron. Je veux être le baron d'Isola Nuova. Quel besoin as-tu d'être baron, toi qui n'aimes que ton violon et tes bêtes? Tu n'es pas fort, tu ne seras jamais qu'un berger d'Arcadie. »
Mais je suis fort, s'écriait Tonino. Je sais travailler la terre. Attendez que j'aie comme vous de la barbe jusqu'aux yeux, et vous verrez si je ne pousse pas bien la charrue.
J'espère que la charrue passera sur mon tas de galets et que le blé y poussera avant que la barbe ait poussé sur tes joues. Mais ce qui ne te poussera jamais dans la tête, c'est l'esprit qu'il faut pour cultiver. »
Alors on discutait, car malgré la résolution avec laquelle Félicie et Tonino secondaient les préférences du patron, ils appartenaient à une autre école, et il avait raison de leur dire qu'ils étaient de la race des pasteurs. S'ils eussent été livrés à eux-mêmes, ils eussent abandonné au diable, c'est-à-dire au désastre des inondations, la partie basse des Diablerets, et ils n'eussent songé qu'à étendre leur domaine sur les hauteurs pour élever des troupeaux. Il y avait là, en effet, de quoi gagner sans rien risquer. Jean aimait le risque. Félicie lui donnait tort. Cette étrange fille l'aidait et le poussait à satisfaire sa passion pour les aventures. Elle me trouvait trop prudent. Et pourtant, rien au monde ne pouvait l'empêcher de batailler en parole et de dire à ce frère adoré et gâté qu'il était fou. Mais les discussions ne dégénéraient plus en querelles. J'étais là pour mettre les parties d'accord en les obligeant à se faire des concessions, en donnant raison à l'un et à l'autre dans la limite où chacun avait raison. Tonino disait comme moi. Félicie rejetait sur lui, je ne dirais pas sa mauvaise humeur, elle n'en avait jamais, mais son besoin d'épiloguer, de railler et de contredire. Avec moi seule, elle était comme neutre ou enchaînée, et sa déférence se traduisait par des questions dont elle écoutait attentivement la réponse. J'essayais alors de lui donner la notion de la vie collective que sa forte individualité avait peine à admettre. J'excusais, j'embellissais, je poétisais l'ardente manie de son frère, en parlant de la solidarité qui règne entre les hommes et du progrès général que chacun doit servir en vue de tous. Cette gloriole que Jean appelait la gloire, je m'efforçais d'en faire de la gloire vraie et bien entendue. Et Jean, qui avait beaucoup de noblesse dans sa vanité, s'enivrait de l'idéalisation que je lui présentais. Tonino écoutait tout cela avec ses beaux grands yeux étonnés, et il regardait Félicie pour savoir ce qu'il devait penser de mes théories. Félicie ne pouvait le lui apprendre, elle était plus étonnée que lui.
et à la fin de mes 20 discours, elle disait « Tout cela est au-dessus de moi. Les hommes ne m'ont fait que du mal, je ne peux pas les bénir et les aimer, et je ne sens aucun besoin de les servir. Qu'ils deviennent ce qu'ils voudront, je leur donnerai ma vie qu'ils ne m'en sauraient aucun gré. Je crois que personne ne sert le progrès de bonne foi. C'est un grand mot que l'on a inventé pour couvrir l'ambition personnelle et faire passer un vice pour une vertu. Pourtant, ne vous fâchez pas contre moi, monsieur Sylvestre. Je suis sûr que vous êtes sincère, vous. Vous croyez à ce que vous dites. Vous avez le cœur grand. Vous avez besoin d'aimer. Et peut-être n'avez-vous rencontré personne qui fût digne de votre amitié. Alors, vous vous êtes mis à aimer tout le monde. Je voudrais être comme vous. Cela me ferait oublier que tout le monde est injuste et mauvais. Mais je ne peux pas perdre la mémoire. C'est pourquoi je ne m'attache qu'à ceux à qui je me dois, et je les aime en égoïste, en oubliant pour eux tout le reste, et moi-même. C'est ma manière d'aimer. Je sais qu'elle ne vaut rien, mais vous ferez un grand miracle si vous me changez. » En février, les eaux furent terribles. Elles entassèrent une montagne de pierres en amont de la presqu'île. Mais notre barrage ne céda pas, et les galets s'écoulèrent de côté, sans couvrir notre terrain. Dans sa joie, Jean me dit « Savez-vous, monsieur Sylvestre, qu'il est temps de régler nos affaires ? Vous allez me dire quelle part vous voulez dans mes bénéfices. Et comme il n'est pas juste que vous les attendiez, je suis prêt à vous faire l'avance que vous voudrez. » « Vous ferez, lui dis-je, 4 parts de vos bénéfices, les 2 plus fortes pour votre sœur et vous, les 2 plus faibles pour Tonino et moi. Réglez cela en temps et lieu comme vous l'entendrez, et ne m'avancez rien. Payez-moi seulement mon travail à la semaine, comme vous l'avez fait jusqu'ici. » « Mais il m'en coûte, reprit-il, de payer un homme tel que vous à la semaine, comme un manœuvre, et de penser que vous n'avez pas devant vous de quoi vous passer la moindre fantaisie. » « Le fait est que c'est honteux pour vous, Jean, » dit Félicie, qui nous écoutait. « J'en rougis, moi, et si j'osais... » « Je n'ai pas de fantaisie, » repris-je, « et vous prévenez tous mes besoins. Je vis chez vous comme un prince. Bonne chère, bon logis, bon feu, une propreté délicieuse. » J'ai de quoi m'habiller pour l'hiver, mon linge est entretenu. Je crois que, si nous comptions, je vous redevrais. Laissons cette question d'argent, elle me désoblige. » Il n'en fut plus question, et nous reprîmes nos travaux, avec ardeur, au printemps. Ayant taillé de la besogne à Jean et à sa brigade d'ouvriers, je montai à la quille et je m'y installai dans le chalet abandonné de Zemmi, qui avait assez bien résisté aux outrages de l'hiver. Tonino, d'ailleurs, m'aida à le consolider. Félicie voulut y porter elle-même tout ce qui pouvait en rendre l'habitation supportable, et je m'y logeai pour une quinzaine afin de surveiller la fonte des neiges, la formation de la brame, encore enchaînée à cette époque sous la glace, et de prévoir les moyens de changer au besoin sa direction dans notre prairie. On sait que les chalets de montagne, les vrais chalets, car nous donnons improprement ce nom aux riches maisons de bois des vallées, sont de véritables cabanes de bergers, ingénieusement construites sur un plan très exigu, afin de donner moins de prise au passage des ouragans. Il y a là tout juste la place pour dormir chaudement, sans étouffer. Mais le chalet Zemmi, qui garda le nom de l'ancien propriétaire, se composait de 2 corps de logis, dont un, plus spacieux, était destiné à abriter les jeunes chevreaux. Je fis de celui-ci mon cabinet de travail. Je plaçai une vitre dans la lucarne, je m'étais muni de 2 chaises et d'une table rustique. Je disposai un coin en cabinet de toilette. Tous les 2 jours, on m'apportait mes provisions de bouche. J'étais là comme un sybarite. Il y avait longtemps que j'aspirais à une vacance d'entière solitude. Ça a toujours été ma fantaisie, peut-être une nécessité de mon caractère. Quand je vis avec mes semblables, ma pensée s'occupe d'eux si exclusivement
soit pour les aider à vivre bien, soit pour comprendre pourquoi ils vivent mal, que j'oublie absolument de vivre pour mon compte. Quand je m'aperçois que j'ai fait pour eux mon possible et que je ne leur suis plus nécessaire, ou, ce qui arrive plus souvent, que je ne leur suis plus bon à rien, j'éprouve le besoin de vivre avec ce moi intérieur qui s'identifie à la nature et aux rêves de la vie, dans l'éternel et dans l'infini. La nature, je le sais, parle dans l'homme plus que dans les arbres et les rochers. Mais elle y parle follement. Elle y est plus souvent délirante que sage. Elle y est pleine d'illusions ou de mensonges. Les animaux sauvages eux-mêmes sont tourmentés d'un besoin d'existence qui nous empêche de savoir ce qu'ils pensent et si leurs obscures manifestations ne sont pas trompeuses. Dès qu'ils subissent des besoins et des passions, ils doivent les satisfaire à tout prix, et toute logique de leur instinct de conservation doit céder à cette sauvage logique de la faim et de l'amour. Où donc trouver, où donc surprendre la voie du vrai absolu dans la nature? Hélas, dans le silence des choses inertes, dans le mutisme de ce qui ne ment pas. La face impassible du rocher qui boit le soleil, le front sans ombre du glacier qui regarde la lune, la morne altitude des lieux inaccessibles exerce sur nous un rassérénement inexplicable. Là, nous nous sentons comme suspendus entre ciel et terre, dans une région d'idées où il ne peut y avoir que Dieu ou rien. Et s'il n'y a rien, nous sentons que nous ne sommes rien nous-mêmes et que nous n'existons pas, car rien ne peut se passer de sa raison d'être. Le mystère est impénétrable quand on veut le soumettre au calcul de l'expérience. Il échappe même à ceux de la plus savante logique. Mais Dieu se prouve précisément par l'absence de preuves à notre usage. Il ne serait rien de plus que nous s'il tombait sous le critérium de notre démonstration. La notion que nous avons de lui réside dans une sphère où nous n'entrons qu'à la condition de nous sentir supérieurs à nous-mêmes, où la foi est une vaillance du cœur, une surexcitation de l'esprit, une hypothèse du génie. C'est l'idéal du sentiment. Et là, tout raisonnement se résume en deux mots. Dieu est parce que je le conçois. J'étais perdue dans ces contemplations d'une simplicité et d'une douceur extrême quand des émotions bien inattendues et bien étranges me ramenèrent sur la terre. Un matin, j'étais le plus heureux des hommes. J'avais oublié mes peines, j'étais bien libre et bien seul. La vaste prairie de la quille commençait à se dorer des rayons du soleil. Le site eût pu sembler mortellement triste à des yeux distraits. Il me paraissait admirable. Pas un arbre, pas un buisson n'interrompait la solennelle uniformité de sa teinte verte et ne dissimulait la grâce de ses courbes hardies et souples. Les pics voisins, plus élevés, fermaient étroitement l'horizon de leur fière dentelure ou de leur neige splendide. Les alouettes chantaient, au-dessous de moi, je ne sais où, dans une région qui était un zénith pour les habitants de la plaine, un nadir pour moi. Le glacier qui s'interposait encore entre le soleil et le bas de la prairie se teignait en rose à sa cime, en vert d'émeraude à sa base. Le temps était pur, pas une brise ne frissonnait sur l'herbe. Tout ce calme avait passé dans mon âme. Je ne pensais plus. Je vivais d'une vie, pour ainsi dire, latente, comme les masses de glace et de rochers qui me protégeaient. L'apparition de Félicie Morgeron à cette heure matinale et au milieu de cette solennité de l'aurore me surprit comme un événement impossible à prévoir. Et quoi de plus simple pourtant? Elle s'étonna de mon étonnement. « Je n'ai pas dormi cette nuit, » me dit-elle. « J'ai eu mal à la tête. J'ai voulu faire une promenade. Et afin d'être rentrée pour le déjeuner du frère, je suis sortie comme la lune éclairait encore. Je vous ai apporté ce panier.
car Tonino oublie toujours mille choses nécessaires. Je suis venu vite, il faisait froid au départ. À présent, j'ai chaud. Je me repose un instant et je m'en retourne. Ne vous dérangez pas pour moi. » J'essayais, tout en la remerciant de ses gâteries, de lui dire qu'elle ne me dérangeait pas, puisqu'elle m'avait surpris ne faisant rien. « Si fait, dit-elle, vous pensiez. C'est un bonheur pour vous de penser, je le sais. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux, vous. Le bonheur des autres fait bien votre occupation, mais non pas votre tourment, et le contentement de votre conscience vous suffit. »
N'êtes-vous pas comme moi?
Non, non, vous vous trompez, vous ne me connaissez pas. Je voudrais que quelqu'un, ne fût-ce qu'une seule personne au monde, me rendît justice et comprît ce que je souffre.
Vous souffrez donc, quelquefois?
Je le pensais, je croyais le deviner. Mais vous ne vouliez pas qu'on eût l'air de l'apercevoir, et c'est la première fois que vous en convenez.
Il faut bien que j'en convienne, puisque j'étouffe.
Le courage a un terme, vous l'avez dit, je suis au bout du mien. » Et comme je gardais le silence, elle ajouta avec une sorte de gaieté amère.
« Mais cela vous est bien égal, n'est-ce pas ?»«
Non, certes, répondis-je, et je voudrais vous faire quelque bien, mais je vous sais si ombrageuse, si prompte à reprendre votre confiance, si portée à contredire les autres et vous-même, que je n'oserai jamais vous faire de questions. »
Ainsi, je suis un être impossible? Dites-le, voyons, je suis venu vous trouver pour vous le faire dire. »
En parlant ainsi, elle cacha sa figure dans ses mains et fondit en larmes. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et j'aurais cru qu'elle ne pleurait jamais. Cette faiblesse féminine qui se révélait enfin m'attendrit moi-même. Je pris ses mains dans les miennes. Je lui parlai avec amitié. Je lui offris toute la commisération de mon cœur, toute l'assistance de mon dévouement.
« Non, non, répondait-elle en pleurant toujours. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimerez jamais. Personne ne m'aime, personne ne peut m'aimer. »
J'essayai de lui dire qu'elle était ingrate envers son frère, qui lui rendait pleine justice, et surtout envers Tonino, qui avait pour elle une sorte d'adoration.
« Ah ! Laissons Tonino tranquille ! »
s'écria-t-elle en m'interrompant avec aigreur.
« Il est bien question de cet enfant-là !»
Je vis qu'elle retombait dans son besoin de lutter contre l'amitié même dont ses larmes imploraient le secours. J'essayais, pour la première fois, de dominer cette nature rebelle et je la grondais paternellement.